France Inter, le 18-20.
Il est à la tête d'une vingtaine de restaurants dans le monde, Tokyo, Londres, Dubaï, Séoul, Las Vegas, Hong Kong, Shanghai et puis la France, entre autres Bordeaux, la Grande Maison, Courchevel, Nîmes, l'Hôtel Impérator et puis Paris, rue Balzac et puis le Gaïa et Pierrot. Total 16 étoiles, c'est Pierre Gagnaire, notre invité dans une semaine en France jusqu'à 19h. Au programme aussi bien sûr le mix, le clip sonore de l'actualité de la semaine écoulée, mixage signé Frédéric Milano, les bonnes ondes de Sandrine Houdin, actualité optimiste pendant ses vacances. Eh bien, on réécoutera son reportage dans un dancing en Indre-et-Loire, 19h20. Le téléphone sonne et une question. Qui est pour vous la femme ou l'homme de l'année 2019? Appelez-nous et expliquez-nous votre choix au 01 45 24 7000. Pardon encore pour ma voix après ce coup de froid ces derniers jours. Le 18-20, émission préparée par Irène Menahem et Maud Ventura avec Amel Meyer. Réalisation Frédéric Milano avec Henri Bérec, Ludovic Asselot et Nicolas Delmas.
Pierre Veil. Une semaine en France.
Innovation, maîtrise technique, sens artistique, fantaisie, c'est avec ces mots que le Petit Larousse vous a défini, Pierre Gagnaire, quand vous y avez fait votre entrée en 2013. Bonsoir Pierre Gagnaire.
Bonsoir Pierre Veil.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Le Michelin écrit ceci, Pierre Gagnaire est l'asticoteur en chef de la cuisine française. Celui qui a été sacré meilleur chef du monde par ses pairs en 2015 réalise une cuisine d'auteur, exploratrice, entière, excessive. Excessive, votre cuisine?
Sans doute, mais je suis plutôt généreux. Et puis, peut-être qu'au départ, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur. Je donnais, et je me disais, bon, au milieu de tout ça, il y aura bien une ou deux bricoles qui vont plaire. Voilà. Et puis, c'était aussi le fait d'avoir des produits assez moyens, comestibles évidemment, mais ces produits moyens m'obligeaient à leur tordre le cou et à créer des goûts qui soient autre chose qu'un navet, autre chose qu'une tranche d'agneau. Voilà, donc cet excès, ce qui est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais cet excès, c'était d'abord là, aussi une aventure parce que tous ces produits qu'aujourd'hui dont on parle, il y a 30 ans, personne ne les connaissait. On connaissait pas le cerfeuil tubéreux, le topinambour, c'était encore la guerre, la mizuna, le mibuna, toutes les épices, donc la figue de Soliès, enfin toutes les variétés de poire, le croûn, le salsifis, enfin. Je peux étaler tout ce marché mental et ces produits. Il faut absolument que pour me les accaparer, ben que je les cuisine. Et j'avais pas un bureau expérimental avec des clients qui n'en auraient pas été ou qui m'auraient permis d'essayer. Mes clients étaient mes cobayes en fait. Hein.
Alors Pierre Gagnaire, vous publiez aux éditions Solar « Les copains d'abord, 80 recettes faciles et conviviales ». Alors il y a plusieurs chapitres, à la campagne, au bord de la mer, en ville, à la montagne, pour les fêtes. La gastronomie des fêtes, c'est en ce moment, qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Pour être très honnête, c'est pas la période que je préfère, ouais. Parce que j'ai l'impression que le consommateur se fait parfois un peu avoir, tout est un peu plus cher. Les gens se croient obligés de manger des produits dits nobles. Je le citerai pas parce que je vais pas le citer, mais donc faire la fête, c'est pas forcément justement employer des produits extraordinaires. C'est juste aussi une façon peut-être de les apprêter et puis aussi une façon de mettre en scène ces plats. Une nappe, des bougies, une belle lumière, de la musique, et puis, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'amitié, c'est les gens qui sont autour de la table, parce que et on voit bien aujourd'hui ce qui se passe avec les grèves. D'ailleurs, certains en servent un peu comme cheval de bataille, mais c'est vrai que c'est un moment quand même un peu magique où les familles se retrouvent. Parfois, c'est pas forcément des rencontres parfois forcément douces, mais c'est un moment fort de l'année où les gens ont envie d'être ensemble. Et quoi mieux que partager un repas ensemble, effectivement.
Alors, quand on lit ces 80 recettes faciles et conviviales, est-ce que quand même vous livrez là des secrets culinaires? Vos secrets?
Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est d'aimer les gens, je pense, en cuisine. D'aimer cuisiner aussi, de prendre du temps, le temps de faire un marché, le temps de choisir le bon produit. C'est aussi dire aux gens, attention, ne cuisinez pas trois plats que vous n'avez jamais faits. Vous partez dans le décor, c'est l'accident industriel. Il faut toujours bétonner sur au moins deux choses qu'on a assurées, qu'on sait bien faire, et puis un troisième plat sur lequel on va innover. Mais le secret de la cuisine, je pense que c'est vraiment l'attention, un peu de goût, et puis essayer, regarder. Et puis aujourd'hui, franchement, avec l'internet, enfin YouTube, enfin on est abreuvé d'images, de recettes. Donc en fait, c'est assez facile de s'informer aujourd'hui et de saisir un petit peu le petit truc qui va vous satisfaire et qui va correspondre à ce que vous voulez faire.
On peut pas devenir Pierre Gagné.
Ben non, enfin, pour le devenir, il faut commencer très tôt.
Ouais. Même. Pierre Gagnère, votre cuisine est-elle, comment dire, compliquée dans vos restaurants?
Compliquée, j'aime pas ce mot. Elle est sophistiquée. Elle est très délicate. Vous savez, la cuisine, ça se résume à deux choses. C'est la cuisson, l'assaisonnement. Quand vous maîtrisez bien ces deux choses, après, chacun a son style. Hein, vous savez, le style au bûchon, le style Ducasse, le style Alénaud, le style... Voilà, tout c'est le style du Savoie, Rollinger, enfin, et tous ces gens aujourd'hui dont on parle, ce sont des gens qui délivrent quelque chose qui est un peu une part d'eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est important, parce que... La cuisine ne rend pas. Elle est d'abord faite par des gens qui ont envie de donner. C'est pas un business. C'est pas un business justement. C'est un moyen de, je crois, de s'épanouir, de donner du sens à sa vie. Dans tous les cas, enfin moi c'est ma problématique. Mais c'est pas un métier normal. C'est un métier de plaisir et le plaisir. Il est très dur à quantifier parce que on est aussi on est aussi des commerçants. Et ce que nous offrons, on doit le vendre. Et on doit le vendre à un prix qui soit adapté à un marché, à une région, à une demande. Et ça aussi, c'est une vraie problématique.
Pierre Gagnère, manger français aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie?
C'est vrai que cette question, on me l'aurait pas posée il y a 10 ans.
Pourquoi?
Parce que tout le monde s'en foutait. mais ça coule de source. Je veux dire, c'est évidemment. Je pense que les gens qui font ce métier de façon, je dirais, très pointue, ils sont pas dans ce manger français. On est évidemment raccordés à un territoire, et ce territoire, c'est la France. Mais moi, quand j'ai commencé à cuisiner, où justement on me disait « Oui, mais votre cuisine est compliquée, votre cuisine, on comprend pas. » Bon, moi, je suis un cuisinier du monde. Mais je suis un cuisinier du monde avant d'avoir voyagé. Tout m'intéresse. Il y a 20 ans, je recevais dans un papier journal qui était le Daily India. Déjà, le journal était une ode au voyage et à la rêverie d'un Indien qui m'avait proposé des épices. Et pendant des années, je recevais un grand carton dans lequel il y avait ni chiot cru du journal, quelques grammes d'épices. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas m'interdire d'utiliser les produits qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Grèce, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie. Mais évidemment, quand on va me proposer, c'est le cas il y a peu de temps, de la viande de Kobe, j'adore cette viande de Kobe, puisque j'ai un restaurant au Japon. Mais il est hors de question d'aller acheter de la viande de Kobe, ça n'a pas de sens. Il y a des très bons éleveurs en France qui font des choses extraordinaires, et à nous de les trouver, effectivement.
Pierre Gagnère, une semaine d'actualité en France, c'est maintenant, comme chaque semaine, le mix clip sonore des temps forts de ces derniers jours. Clip réalisé par Frédéric Milano. Écoutez.
Les mouvements de grève se justifient. Ils sont constitutionnellement protégés. Mais je crois qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles.
Emmanuel Macron, dimanche dernier, lors de son voyage en Afrique, il n'a pas été entendu. Toujours les grèves dans les transports pour protester contre la réforme des retraites. Pas de répit en vue pour les usagers du rail, train, métro. Conséquence, faute de pouvoir se déplacer, on renonce au spectacle le soir, si nombreux en cette période de fête. Bernard Tamin, président du syndicat national du théâtre privé.
On est dans une période de l'année où normalement les théâtres sont pleins. Au début du mois de décembre, on était plutôt sur des baisses de recettes et de fréquentation de l'ordre de 40%. Et ce qui s'annonce pour les jours à venir, on est plutôt à moins 50, moins 60%.
Moins de grévistes à la SNCF au cours de la semaine, mais ceux qui cessent le travail sont déterminés avec parfois des opérations coup de poing. Exemple, lundi, gare de Lyon à Paris, des quais du métro envahis par des manifestants avec des fumigènes. Très vite, des policiers encerclent les manifestants.
Le but, c'était un petit peu de montrer un peu qu'on est encore là et qu'on lâchera rien et qu'on est aujourd'hui encore en grève et tous les jours, on perd du salaire et on perd pas du salaire pour rien, on est présent. Donc là, on est entouré de CRS. Ils sont vraiment soucieux de nous garder ici au chaud.
Manifestation dans le métro condamnée par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.
Ce que j'ai vu comme image m'a choquée parce que je pense qu'on fait prendre des risques aux usagers. Et moi, je suis toujours inquiète quand on met des usagers en situation potentielle de danger. Et donc, à ce titre-là, évidemment, j'ai été assez choquée des images que j'ai vues ce matin.
Et nouvelle pièce au dossier retraite, Emmanuel Macron révèle qu'il renonce à sa future retraite d'ancien président de la République. Réaction très critique du député La France Insoumise, Éric Coquerel.
Si, il y a un côté grand seigneur justement, mais d'envoyer comme modèle que moi je n'ai pas besoin de cette retraite et regardez, moi j'en fais le sacrifice avec un message sous-entendu, bah, vous pouvez aussi faire des sacrifices, il y a quelque chose qui fait très ancien régime. C'est un héritage d'un monarque qui a lui les moyens de ne pas se poser ce problème.
Sans doute la gaffe de la semaine, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et des Transports, qui part en vacances quelques jours à Marrakech. Mauvais message en plein conflit social, estime Éric Meyer, porte-parole de Sudrail.
Je ne pense pas que ces vacances vont aider à calmer l'esprit des grévistes qui sont en grève depuis plus de 20 jours. C'est un mauvais message. On n'est pas surpris. Hein. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une vraie stratégie du pourrissement à l'œuvre. Nous n'avons eu aucun contact avec la direction SNCF ou avec le gouvernement. Tout est coupé.
Fabien, c'est le nom de la tempête qui a soufflé le week-end dernier sur le sud-ouest et la Corse, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité. Patrick Bresseau, le directeur EDF en Corse.
La crise que nous vivons actuellement est historique pour la Corse. Nous n'avons jamais eu de vent d'une telle violence. 170 km/h dans les rues de Bastia, 154 km/h à Ajaccio, plus de 200 km/h dans le Cap Corse, c'est exceptionnel. Le combat que mènent les agents d'EDF et les prestataires, c'est de faire la réalimentation pratiquement pied à pied.
Jean-Luc Mélenchon était notre invité sur France Inter le 24 décembre. Ali Badou lui a demandé s'il croyait au Père Noël.
Oui. C'est-à-dire que oui. Je suis persuadé d'en être une des manifestations, parce que je suis rouge comme lui. Je n'ai pas sa belle barbe blanche. À partir de Noël, c'est le 21, hein, le jour l'emporte sur la nuit. C'est la nuit la plus longue, la plus terrible, mais vous êtes sûr que le lendemain, il fera un jour. Et ça, c'est un thème qui correspond exactement à ma vision de la vie. Demain peut être meilleur si on s'y met.
Pierre Gagnère, réaction à ce mix, ce clip sonore de la semaine. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous retenez?
Alors, d'abord, en creux, c'est la contradiction de notre société, de la vie elle-même. Ces grèves enrichissent une catégorie de gens qui font des métiers, qui en profitent, et d'autres vont en crever. Et je fais partie des gens qui ont été tués en 95 par cette grève qui a été terrible. Et trois semaines en ayant deux couverts par jour, c'était le coup de grâce qui a tué mon projet lorsque j'étais à Saint-Étienne. Je vais pas commenter les
actuellement, vous souffrez de ces grèves. Il y a moins de monde dans vos restaurants à Paris.
Oui, un peu moins de monde. Mais je veux pas me plaindre parce que non, on s'en sort. Non, il y a une chose qui me frappe, moi, il y a eu des concertations, paraît-il, de syndicats, le gouvernement, des gens très compétents, des économistes, voilà. Et aujourd'hui, tout le monde se tape dessus. Il y a des économistes qui disent « Ouais, on n'aurait pas dû faire ça, c'est la connerie. » Attends, mais pendant deux ans, ces gens ont parlé. Mais qu'est-ce qu'ils se sont racontés à part boire des cafés? Il s'est bien passé quelque chose avec des convergences. Et pourquoi aujourd'hui, il y a cette panique? Alors après, et aussi, on peut se poser la question, pourquoi cette réforme juste avant Noël? Je sais pas. Bon, mais moi, ce qui me frappe vraiment... Je suis, moi, petit chef d'entreprise. Je peux raconter une anecdote toute bête. Un de nos restaurants, le Gaïa, pour pas le citer, mériterait de rester ouvert tous les jours. Je ne peux pas le faire parce qu'effectivement, pour deux raisons. Un, je n'ai pas assez de personnel pour avoir une activité 7 sur 7. Et deux, j'ai senti que si j'imposais ça aux gens qui me sont fidèles, je partais dans le mur, donc j'ai fait marche arrière. Et aujourd'hui, je sais que cette année, sur les Gaïa, je vais perdre de l'argent. Donc la concertation, quand on met quelque chose en œuvre, à peu près à 90%, ça y est, c'est ficelé, quoi. Et là, tout le monde... Non, mais c'est pas que les syndicats, c'est pas que les politiques, c'est tous ces grands savants qu'on appelle les économistes et les sociologues. Ils disent, ouais, mais c'est n'importe quoi. Alors ça, je comprends pas, qu'on nous explique, nous les Français.
Bien, Pierre Gagnaire, on revient à vos restaurants, à cette espèce d'empire culinaire que vous dirigez avec une vingtaine de restaurants dans le monde. Et vous avez dit récemment dans la presse, j'ai mis en place un système pour que ça fonctionne sans moi. Expliquez-moi comment vous faites pour faire fonctionner tous ces restaurants qui portent la marque Pierre Gagnaire.
Alors, moi j'ai 69 ans, mon premier projet... Et a démarré en 2004, donc j'avais 54 ans. Et c'était Londres. Et lorsque j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, est-ce que tu vas pas perdre ton âme? Parce que moi, pour moi, clairement, ce métier, ce travail que j'offre, il faut que ça soit sincère, que ça soit honnête, que ça soit créatif, enfin, qu'il y ait des mots forts, qui délivrent quelque chose qui a du sens. Bon. Et puis, j'étais aussi surtout totalement dans ma cuisine, presque nuit et jour. Ce premier projet m'a obligé à prendre un peu de recul et m'a obligé à verbaliser ma cuisine. Et puis il se trouve que 2004, j'ai commencé à travailler pour moi en 77, j'avais déjà créé un réseau de gens solides, de gens qui avaient compris comment je fonctionnais, et ces gens, il y en a, ça a commencé avec 4-5 personnes qui sont parties au Japon, à Hong Kong, à Séoul, et puis ces gens, eux-mêmes ont fait des petits, et tout ce réseau que j'ai créé, mais je l'ai créé très tard. Ça s'appuie sur des gens qui sont très très proches de moi. Ce que je veux dire, c'est pas un empire. C'est des valeurs que je défends, que j'ai réussi à transmettre à quelques dizaines de personnes, qui eux-mêmes le délivrent à quelques centaines, même plus d'ailleurs d'individus. Mais ça aura une fin. Je veux pas transmettre une usine clé en main avec un modèle de business. Tout ça c'est très fragile. C'est quand même très artistique. Donc
ce sont des cuisiniers qui ont été formés par Pierre Gagnaire et qui défendent les mêmes pratiques.
cuisinier, sommelier,
Pierre Gagnère,
cuisinier, ouais. sommelier, ouais. pâtissier, maître d'hôtel, parce qu'on parle de cuisine, mais aussi c'est tous les gens de la salle, des gens qui ont cette envie de bien faire, de faire plaisir, de donner aux gens un moment de grâce. Voilà, c'est offrir un moment de grâce dans un. Voilà.
Vous avez évoqué au début de l'émission l'importance du goût dans cette construction du goût. Est-ce que vous faites constamment, Pierre Gagnère, des découvertes?
Oh, constamment. Bon, j'ai l'impression d'avoir rien inventé. Hein. Je bricole, je joue avec la matière, et puis moi-même, je passe en cuisine, il y a des choses qui... Ça m'échappe complètement, mais c'est très proche d'un travail... Alors, c'est bien sûr créatif à un certain niveau, parce qu'après, je suis pas dans mon atelier à produire 2, 3, 4 toiles, 5 toiles, ou à écrire un roman, c'est la difficulté de ce que je fais, mais c'est aussi ce qui en fait la noblesse, c'est ce rapport aussi à un artisanat, c'est un rapport à une répétition, c'est-à-dire que j'invente pas tous les matins, au contraire, moi, par rapport à
mais vous n'êtes jamais dans la routine.
Ah non, je peux pas, impossible, et puis, je vois bien lorsque je fais un menu, lorsque j'imagine quelque chose, allez y aller, on va. Non, ça va pas. Il y a une pièce de puzzle, j'enlève, hein, tout s'écroule. Ouais. Donc on recommence, et puis il y a une espèce de. Oui, d'abord, faut que moi ça me plaise. Il faut que. Donc cette espèce d'honnêteté par rapport à ma propre sensibilité, et bien évident qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, ma sensibilité, ma façon de réfléchir, de fonctionner, elle n'est pas la même que quand j'avais 30 ans, bien évidemment.
Qu'est-ce qui a changé?
Bah, j'ai construit une bibliothèque de goût, ça y est, dans tête, je sais à quoi ressemble un concombre, même des concombres, hein, ouais. Concombre libanais n'est pas, il y a des pommes de terre, tout ça, il y a différentes, tous les, je connais pas tout, et puis d'ailleurs, enfin plus on avance en âge, on a l'impression de rien savoir.
Pierre Gagnère, comment vient l'idée d'un plat?
Elle peut venir d'un manque. Bon, ben cette année, il n'y a pas de cèpes, par exemple. Très peu. On les a eus très tard. Bon, mais moi, comme j'étais en voyage, on peut dire qu'à Paris, on a raté la saison des cèpes. Parce que les cèpes sont arrivés trop tard sur le marché. Ben, on a fait autre chose. On a bricolé d'autres saveurs, automnales, mais sans les cèpes. Donc c'est la contrainte, et puis c'est aussi un produit. Ça va être par exemple, il y a des produits que je connais pas bien, mais que je découvre grâce à, par exemple, je pense à la rhubarbe. C'est un produit que je maîtrisais pas. Ben, j'ai rencontré des gens près d'Amiens, le père et le fils, qui font des rhubarbes magnifiques. Ça va être les crônes, ça va être les chalottes, ça va être ou alors des produits plus la pêche. Il y a des choses un peu plus les spargnes, les cocos de chasse, le merlu, enfin il y a des petits, mais ça part souvent d'un tout petit produit ça peut être une bière d'eau de mer, ça peut être des algues.
Et il y a une part d'instinct dans votre cuisine.
Mais ce n'est que ça. Mais ma vie elle est c'est un instinct. Tout ce que j'ai vécu à la fois sur le plan personnel, professionnel, ce n'est que l'instinct qui guide ma vie. Et c'est dangereux, parce que l'instinct, c'est des sentiments, c'est de l'émotion, et ça, c'est assez dangereux, hein. On met sa vie en danger, hein.
Pierre Gagnère, une pause musicale avec le rap de Nekfeu et son troisième album solo, son titre Les Étoiles Vagabondes. Il a invité Vanessa Paradis. On est des milliards sur la Terre et il y a celle ou celui qui compte dans l'univers.
Dans l'univers, y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant, dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre. Terre 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Et même si notre amour à tes devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seul la nuit sous le trait d'un jeune homme entier. Quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle.
Nekfeu et Vanessa Paradis dans l'univers.
France Inter. Une semaine en France.
Avec notre invité Pierre Gagnère, un chef cuisinier multi-étoilé. Pierre Gagnère, déjeuner ou dîner dans un 3 étoiles, c'est quand même très très cher. Ça reste un rêve inaccessible pour beaucoup de monde. Que dites-vous à ceux qui n'ont jamais vécu ce moment de déjeuner ou de dîner dans un 3 étoiles ?
Alors, à midi, nous avons un déjeuner à 95 euros, je crois. Donc un verre de vin... On mange 110 euros à Paris, dans un quartier qui est cher. Je pense que c'est raisonnable. Et puis après, c'est un choix. On peut s'offrir, je pense, ça une fois dans sa vie. Alors, nous avons beaucoup de clients modestes. Hein, on n'a pas, c'est pas réservé à une espèce d'élite. Non, il y a effectivement des amoureux de ce type de d'expérience, comme on peut aimer l'opéra, quand on descend Orange pour écouter l'éco-régie, ben, ou Aix-en-Provence, que hein, les auditeurs de France Inter connaissent bien, c'est du monde, c'est de la qualité. Nous employons 50 personnes aux 3 étoiles, c'est moins d'un client par personne. Donc je vous dis, faites le calcul. Forcément, il faut. C'est un modèle économique d'ailleurs très très fragile, et c'est aussi pour ça que je suis assez content. Même. Mais alors là, en tant qu'entrepreneur, d'avoir pu créer d'autres lieux, parce que je protège mon propre sanctuaire, qui est celui de la rue Balzac.
Pierre Gagnère, comment vit-on cette obsession du 3 étoiles au Michelin ? C'est le bon mot, obsession. Racontez-moi, par exemple, cette première fois, quand vous recevez 3 étoiles, c'était en 1993.
Hein. Oui. Ah ben, c'est le Graal, quoi. C'est un moment... Si vous voulez, c'est un moment où vous dites... Mon travail est reconnu. Mmh. Mais quand vous avez digéré ça... C'est juste une clé qui vous permet de continuer dans les meilleures conditions possibles. À condition, et moi je peux en parler, puisque en 93, j'obtenais 3 étoiles, et 3 ans après...
C'était à Saint-Étienne.
Je fermais. Je me sabordais parce que je sentais que le lieu où j'étais, la ville où j'étais, et alors que j'adore Saint-Étienne et je suis heureux, on vient de parler du musée à l'instant là pendant les informations de ce musée que j'adore. Mais la ville n'était pas adaptée à mon travail. Voilà. Donc après l'obsession, je suis obsédé par la qualité, je suis obsédé par.
Il y a cette obsession de perdre une étoile subitement, de ne plus être trois étoiles.
Oui, bien sûr. Oui.
Une pression destructrice.
Qui peut destructrice, mais il faut pas être trop. Parce que d'abord, on.
Dites-moi.
Je peux pas trop répondre à ça.
Ouais.
Moi, je suis stressé sans l'être, quoi. Je fais tout ce que je peux pour bien faire.
Mais vous doutez parfois de vous.
Mais on doute tout le temps.
Dans vos cuisines.
Je doute.
Vous arrive de douter.
Mais bien sûr.
De vos choix.
Bien sûr, je doute, mais comme on m'a dit, je crois, hein, je doute, mais la main ne tremble pas. C'est-à-dire, voilà. Après, on fait tout ce qu'il faut pour créer une vraie bulle de qualité. Puis après, il y a des gens qui vont pas aimer ce qu'on fait. Il y a des gens qui vont même être parfois malveillants. On a un petit pourcentage forcément d'aigreurs. C'est chez certains convives mais c'est très rare, honnêtement. Nous, on a créé un lien avec les gens qui viennent nous voir. J'aime pas dire clientèle. D'ailleurs, c'est pas une clientèle. C'est presque des amis. Moi j'ai des retours incroyables c'est une histoire d'amour la cuisine hein, avec les gens hein. Moi aujourd'hui je nourris des gamins de 30 ans qui étaient venus avec leurs grands-parents quand ils avaient 5-6 ans à Saint-Étienne et ça c'est c'est là que c'est beau parce que ce métier il est pas bien sûr hop c'est engloutis c'est terminé mais c'est plein de souvenirs et je pense que la vie ce qui nous construit c'est un petit peu de nostalgie un petit peu parce que sinon on est englouti, et beaucoup de souvenirs.
Ah justement, les souvenirs, c'est votre père qui vous a indiqué le chemin vers la gastronomie. Votre père était un restaurateur réputé, il dirigeait le Clos Fleury près de Saint-Étienne, et c'est lui qui vous a donné les bases essentielles pour faire ce métier.
Non, j'adore j'aimais mon père, mais il m'a rien donné du tout, il m'a dit « tu te débrouilles ». Au contraire, il m'a plutôt montré le mauvais côté de ce métier.
C'est quoi le mauvais côté?
Le mauvais côté, c'est les horaires impossibles, qui ont bien évolué aujourd'hui quand même, le stress, parce que c'est comme un train qui part, chaque service c'est un train, les gens passent à table, 20 minutes, il faut qu'il y ait premier plat, deuxième plat, troisième plat. Donc il y a une espèce de stress terrible qui est inhérent à notre profession. Alors qu'on ne donne que de la tendresse, on ne doit donner que ça, du bonheur. C'est pas la guerre notre travail, mais il n'empêche que c'est un travail. Si on même dans un bistrot, vous servez entre midi et entre 1h et 1h30 sans personne, si ça avance pas, les gens ils gueulent quoi. Donc il y a un vrai stress dans notre travail.
Ouais. Votre service militaire, vous l'avez fait dans la marine.
Tout à fait.
Et vous étiez cuisinier dans la marine.
Oui, j'étais cuisinier.
Ça a compté dans votre formation.
Énormément.
De quelle phase ? Pourquoi ?
Parce que dans la marine, j'ai trouvé ce que j'ai pas trouvé en cuisine. J'ai trouvé un projet, des valeurs, du respect, un chef et de la solidarité, et ce que je n'avais pas trouvé en cuisine avant. Et j'ai vraiment aimé ces moments en mer où on est seul et on n'est pas seul parce que voilà et puis la cuisine subitement le cuisinier devient quelqu'un de majeur en mer le cuisinier c'est la gamelle quoi c'est très important et notre métier il a aussi sa valeur même sur un bateau oui.
Est-ce que vous êtes aussi, on revient maintenant à vos restaurants aujourd'hui, êtes-vous une sorte de metteur en scène, comme on parle de théâtre? Est-ce qu'il y a une part de théâtre dans un restaurant?
Bien
sûr. C'est-à-dire qu'il y a la cuisine et puis il y a une mise en scène, le décor, la présentation des plats.
Bien sûr. Le plus beau texte du monde, il faut un éclairagiste, il faut il faut, même si c'est très 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 simple, il faut une mise en image, une mise en perspective, une mise en condition qui fait que les gens rentrent dans un univers un peu magique que j'ai signé. Oui.
Pierre Gagnaire, comme chaque vendredi dans Une Semaine en France, un rendez-vous, les bonnes ondes de Sandrine Houdin, actualité optimiste, heureuse, elle est en vacances, Sandrine. Alors, on va réécouter son reportage au Bon Temps. Le Bon Temps, c'est un petit dancing de Saint-Maur-de-Touraine, au sud de l'Indre-et-Loire, tous les dimanches. Entre 100 et 250 danseurs et danseuses viennent oublier le temps qui passe. Ils ont entre 60 et 90 ans et pour rien au monde, ils ne rateraient leur thé dansant du dimanche pour cause. Hein. Comment oublier sa petite retraite, ses factures, comment supporter le deuil d'un mari, d'une amie, comment lutter contre la solitude quand on habite en zone rurale, que les petits-enfants sont loin et que les activités dominicales sont rares. Eh bien, comme ça.
Ça y est, ça vient d'ouvrir. On se dit bonjour, on s'embrasse et on se prépare comme ce monsieur pliant dessous une table.
Je change de chaussures. Je mets des chaussures qui glissent pour glisser sur le parquet.
Bernard n'est pas du coin, mais chaque fois qu'il est en vacances avec sa femme, il cherche un dancier.
On tourne pour essayer de trouver les danses qu'on aime dans chaque endroit différent.
Ouais, parce que sinon, la discothèque traditionnelle, c'est même pas la peine.
C'est boum boum.
Qu'est-ce que vous appelez le boum boum?
Pour lui, la danse, c'est en couple, parce que la danse, ça doit être un partage. Et les danses seules, comme quand on est jeune, qu'on a besoin de se défouler, c'est pas un partage.
Pour vous, c'est pas la danse?
Non, c'est pas de la danse, c'est de la gymnastique.
Bon après-midi à tous, bonne danse, et puis on y va avec Café de Paris.
Merci, allez, on vous attend sur la piste, hein, avec un petit passe-doble.
Bernard vient d'enlacer sa femme, 45 ans de mariage, Chantal adore.
Je suis sûre que je trouverai rien qui nous rapproche autant que ça. Oui.
Quand vous dansez avec votre mari dans un thé dansant comme ça, vous pensez à quoi?
À notre rencontre, à nos 20 ans, à tout ce qu'on éprouve quand on est jeune et qu'on ne se connaît pas beaucoup. C'est pour ça qu'on aime la danse comme ça, c'est de la séduction. Quand on est dans la vie de tous les jours, on n'a pas le même contact physique que quand on est dans les bras de son mari en train de danser. Je ne fais pas la vaisselle avec lui dans le dos.
Et ça tourbillonne, Cédric derrière son bar est bluffé, c'est le patron de la maison.
Dès que la musique commence, ils vont tous sur la piste. J'ai essayé de danser avec eux, j'étais beaucoup essoufflé. Hein.
C'est un remède contre quoi?
Pour le moral. Les gens viennent pour s'amuser, pour rigoler, penser à autre chose, comme porte le nom du bâtiment, pour passer du bon temps.
Et hop, Jean-Pierre et Nicole, les yeux dans les yeux, sans conjoint.
Eh ben, ils sont à la maison.
Ils ont pas envie.
Ah non, 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 mon mari, il aime pas, il chasse.
Et vous venez souvent ici, au bon temps?
Nous, depuis le début, dès qu'on peut, on vient.
Vous tenez 4 heures?
Ah oui, oui, 5 heures même.
Est-ce que je peux vous demander votre âge?
72.
74.
71 pour Frida. Frida est veuve, elle vient tous les dimanches avec sa copine, pomponnée et parfumée.
Moi, j'aime ça.
Sans le thé dansant, le dimanche, ça ressemble à quoi?
C'est mort, hein.
De quoi c'est mort?
Je sais pas, moi, on marche, ouais, d'accord, on revient chez soi, on boit une petite tisane, mais bon, ben, c'est fini, quoi. Est-ce que là, ça me décontracte?
Décontracte?
Oui, ça me décontracte.
Frida, vous ne venez que pour l'amusement ou aussi peut-être pour trouver l'amour?
Oh, c'est un peu discret. Quand il y en a un qui se présente, j'y vais. Mais quand il n'y a pas d'homme, eh ben, on danse entre femmes.
Pour vous, l'essentiel, c'est de danser?
Voilà.
Danser, 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 Josette, 79 ans.
Moi, je viens parce que je... C'est un héritage de ma maman.
C'est bien.
Je l'ai perdue très très jeune. J'avais 10 ans et demi. Et elle m'a transmis son amour de la danse. Elle a fait des concours. Et quand je danse, c'est avec ma maman que je danse.
En fait, madame, dans ce dancing, là, il y a toutes les raisons pour lesquelles on vient ici.
Bah oui, parce que quelque part, c'est une évasion.
Et Madison, ça va durer jusqu'à 19h30, moyennant 10 euros et une petite madeleine. Gare à ceux qui trouveraient ça ringard, le doyen de la piste de danse, ça le met en colère.
C'est pas ringard, ça. C'est les gens qui sont ringards, les gens qui pensent que c'est ringard. C'est la vie de danser.
Enfin, la valse, la musette, mais certains pourraient dire...
Mais oui, mais ça s'appelle vivre. Vous croyez que ça s'appelle vivre de regarder la télévision toute la journée, puis de bouffer toute la journée?
Regardez, moi je danse depuis l'âge de 14 ans. Je suis pas pourri encore.
Ça vous entretient, vous êtes en train de...
Ça dire. M'entretient. Mais j'ai pas de gras, moi.
Tablette de chocolat, hein?
J'ai mon poids de 20 ans.
Rappelez-moi votre âge.
87. Vous êtes satisfaite?
Bah, vous me rendez heureuse, monsieur.
Bon, bah c'est bien. Faites comme moi. Pas avoir de ventre.
J'en ai un peu là.
Bah oui, bah c'est pas bon. Bah oui.
Je danse plus.
Allez danser. La vie, elle est belle. Il faut la bouffer, c'est tout. À pleines dents.
Sandrine Houdin, les bonnes ondes, le dancing au bon temps, Pierre Gagnaire, la chaleur humaine, la présence des autres, c'est fondamental dans un bon vieux dancing et aussi autour d'une table.
Oui, puis c'est notre métier, c'est, je vois bien les équipes qui se forment, ils restent amis à vie ces gens, ils partagent une expérience tellement forte, c'est un peu comme un jeu de rôle en restaurant, c'est-à-dire que chacun tient sa place, c'est un théâtre, plus ou moins bien réglé. Je crois que le nôtre, il est plutôt très bien réglé. Ça a pris du temps. Il y a eu des ratés. Il y en a encore parfois. Mais l'homme de main qui fait la vaisselle, eh ben il a toute sa place. Et on arrive à la fin de l'année, ils auront leur prime aussi. Parce que si lorsque le matin on arrive et que la cuisine n'est pas nickel chrome et que tout est bien rangé, bien propre, eh ben le théâtre ne peut pas se mettre en route. Donc c'est un vrai théâtre avec les chacun tient. Moi je le dis toujours. Par exemple, le dernier qui rentre, il est aussi important que le plus ancien. Mon plus ancien, il est avec moi depuis 37 ans. On a tout vécu ensemble. Mais il le sait. Et le dernier qui rentre, il a toute sa place. Après, bien sûr, à lui de ne pas perdre des points au cours du chemin qu'il partagera avec nous.
Cette convivialité, on la retrouve dans ce livre paru aux éditions Solar. C'est 80 recettes faciles et conviviales. Les copains d'abord, c'est signé Pierre Gagnaire. Une question un peu indiscrète. Pierre Gagnaire, chef multi-étoilé, décrivez-moi chez vous votre réfrigérateur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo?
Il y a du très bon beurre, toujours. Il y a toujours un bout de saucisson qui traîne, de la salade.
Vous cuisinez parfois pour des amis, pour vos proches?
Hier Noël, j'ai cuisiné, absolument. Oui. Oui.
Par exemple.
Oui. C'est une fois par an. Je fais ça vraiment, je passe.
Et vous avez proposé quoi à vos amis, à vos proches?
Il y a une poularde très classique, une belle poularde rôtie, voilà. Avec une crème de marron, quelques huîtres avec un granité là un petit peu spécial qui est un granité de d'échalote avec un vieux vinaigre, une bonne salade et puis voilà que très à la fois très sophistiqué et très simple.
Pierre Gagnaire, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter, une semaine en France. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Et bonne fête de fin d'année.
Merci.